Radio Cité Genève.
L'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2. Aujourd'hui, je reçois un personnage bien connu des Genevois. On va voir pourquoi tout à l'heure. J'ai nommé Jean-Claude Gandur. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Viviane, comment allez-vous?
Très bien, très heureuse de vous recevoir dans cette émission, l'œil du commissaire priseur. Alors, pourquoi êtes-vous si connu des Genevois? Racontez-nous l'histoire.
Je pense que en 2010, lorsque il y a eu la possibilité de l'agrandissement du musée de Genève, j'avais été saisi d'admiration pour le projet que présentait Nouvel.
L'architecte.
Jean Nouvel, absolument. Et j'avais été à une soirée de présentation de ce projet qu'ils essayaient de remettre à la mode. Et j'avais trouvé le sujet extrêmement intéressant et j'avais été voir Mens, César Mens, en lui disant, moi je serais prêt à contribuer à la construction de cet agrandissement. Et à ce moment-là, il me répond, très bien, quelle bonne idée. Et pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de vos collections? Et donc, on a fait ce qu'on appelle une convention entre le musée et ma fondation pour un bail de plusieurs années. Et donc, je pense que c'est ça qui a dû me mettre un petit peu en lumière à l'époque.
Alors ça, c'était en 2010-2011, c'est ça?
C'était en 2010 lorsque l'on a signé la convention.
D'accord.
Et ensuite, comme vous le savez, il s'est passé un certain nombre d'années là-dessus, puisque c'est en 2016 où le peuple de la ville de Genève s'est prononcé contre l'agrandissement.
Alors justement, donc la question était, mais comment se fait-il au fond qu'un collectionneur qui propose quelque chose, qui va offrir quelque chose et y loger des collections, au fond, on en arrive à faire un référendum. Racontez-nous ça, c'est incroyable comme histoire.
Alors, je ne connais pas évidemment les dessous absolus de l'histoire. Il faut bien comprendre que le référendum ne porte pas du tout sur les collections de M. Gandur. Le référendum porte sur l'agrandissement du musée.
C'est le musée d'art et d'histoire.
Le musée d'art et d'histoire. Mmh. Et il y a, si vous voulez, une coalition qui se met en place, soutenue par un certain nombre de personnes. De tous les bords, d'ailleurs, c'est assez curieux que, je dirais qu'une droite bien pensante, ainsi que la gauche et l'extrême gauche, s'allient pour que le projet capote.
Donc, au fond, c'était pas du tout politique. C'était épidermique.
Écoutez, vous savez, c'est très difficile de juger de ce que veut le souverain. Le souverain étant le peuple, il décide qu'il ne veut pas l'agrandissement du musée. On doit s'y plier. C'est la règle du jeu. J'étais sur le coup un petit peu déçu en me disant dommage, parce que je pense que les collections que je proposais dans le cadre de cet agrandissement ont une valeur patrimoniale importante.
Alors justement, il faut parler de ce que vous songiez y mettre. Quel était le cœur de ces collections que vous songiez accrocher aux cimaises de la nouvelle aile du musée d'art et d'histoire?
Alors, à l'époque, j'avais donc, que j'ai toujours d'ailleurs, une grande collection d'antiquités, que j'ai démarré quand j'étais assez jeune d'ailleurs. J'avais 17-18 ans quand j'ai commencé à collectionner. Et ensuite, j'ai ajouté la peinture d'après-guerre européenne, c'est-à-dire les peintres qui travaillaient surtout à Paris, puisque Paris était le centre du monde artistique à cette époque-là. Et ensuite, j'ai développé un peu plus tard, dans les fins des années 90 et début 2000, tout le statuaire religieux, Moyen-Âge, Renaissance, où j'étais vraiment pris d'un goût extraordinaire pour cet art qui était abandonné. C'est-à-dire qu'on pouvait acheter des chefs-d'œuvre pour des sommes extrêmement raisonnables. Et donc je me suis dit, j'aime ça, c'est beau, je peux les mettre chez moi à la maison, et ça viendra compléter des ensembles que possède le musée, etc.
Bon, à l'époque, est-ce qu'à l'époque, il y avait les meubles aussi dans cette collection?
Les meubles sont venus un petit peu plus tard, plutôt autour des années 2010, parce qu'à ce moment-là, je me suis intéressé à ce qu'on appelle le style français, qui sont non seulement le mobilier, mais aussi les objets de décoration des salons des années 1760-80.
La grande décoration.
Exactement, Louis XV, Louis XVI. J'ai fait l'impasse complètement sur le XIXe siècle.
Il y a une raison à ça ? Sur tout le 19e,
c'est-à-dire. En tout cas, tout ce qui est objet d'art et décoration, peut-être sous maintenant l'influence de ma conservatrice, je m'intéresse un petit peu au statuaire du 19e. Effectivement, il y a quand même de très grands artistes. Mais j'avais un a priori, mais ça c'est plutôt familial qu'autre chose.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, il n'y avait que ça chez mes grands-parents.
Ah oui, d'accord.
Et donc, peut-être qu'il y a eu une sorte de rejet qui fait que j'en ai trop vu. Et
ça, c'est normal. On ne collectionne jamais ce que les parents ou grands-parents ont collectionné.
Il paraît. Et donc, je peux en justifier. C'est absolument exact.
Alors, vous avez donc essuyé ce refus. Est-ce que ça a développé pour vous beaucoup de regrets ? Pas un peu ? Pas du tout ?
Alors, sincèrement, je ne pense pas avoir le moindre regret. C'est-à-dire que dans la vie, on regarde devant soi et on ne regarde pas derrière. C'était 2010, j'avais encore beaucoup d'années devant moi à réfléchir à un autre projet. Et d'ailleurs, je réfléchis à d'autres projets aujourd'hui. Et je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets dans la mesure où je n'étais pas concerné par le refus du peuple genevois. Au fond, ce n'est pas à chasser M. Gandur, c'est on ne veut pas agrandir le musée avec Jean Nouvel, je n'y peux rien. Je veux dire, je suis une victime collatérale, comme on dit. Donc je ne peux pas avoir de regrets. Voilà.
Alors qu'est-ce qu'on va écouter ?
Puisque vous m'avez demandé de choisir des morceaux de musique, j'ai choisi Édith Piaf, non rien de rien.
On écoute.
Radio Cité Genève, l'œil du commissaire-priseur, Viviane Juteau.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire-priseur avec Jean-Claude Gandur. Vous avez vu que Jean-Claude Gandur est un collectionneur important Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, Jean-Claude, détailler un peu ce qu'il y a dans cette collection. Parce que vous nous avez dit rapidement, alors, de l'Antiquité. Comment est-ce que c'est venu tout ça? Vous étiez jeune, hein, je crois, très jeune quand vous avez commencé. Quel est le premier objet qui vous a tapé dans l'œil?
Alors, le premier objet, c'est un cadeau. C'est un cadeau de ma grand-mère, ces petites lampes à huile romaine, dans terre cuite, qui existait en Égypte. Il y avait des ateliers qui fabriquaient ces petites lampes. Et ma grand-mère m'en avait offert une, que j'ai gardée d'ailleurs, et qui est la seule pièce que j'ai gardée à titre privé.
C'est le déclencheur.
C'est le déclencheur. Et donc, je me suis intéressé, j'avais quoi? J'avais 9 ans, 10 ans. Et j'étais à l'école suisse d'Alexandrie. Et comme école suisse, comme vous savez, on a la course d'école. Et donc, chaque année, même si c'est Alexandrie, l'Égypte, chaque année, on allait au Caire ou on allait dans une ville voir des monuments. Et donc, c'est comme ça que j'ai vu les pyramides, c'est comme ça que j'ai vu Saqqara, la fameuse pyramide de Djoser, etc. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. C'est comme un coup au cœur. Et lorsque j'étais à Paris, alors beaucoup plus tard, j'avais déjà une trentaine d'années, je me promenais côté du Louvre des Antiquaires et je vois une paire c'était des aigles Zeus qui emporte Ganymède. Et je trouve ça très beau, je suis avec mon
du
épouse.
Du bronze, alors.
C'est une terre cuite.
Terre cuite
de ce qu'on appelle la Grande Grèce, le sud de l'Italie.
D'accord.
Et je regarde ça avec mon épouse, nous sommes là émerveillés lorsque l'antiquaire sort et dit « c'est beau, n'est-ce pas ?» Je dis « oui, c'est très beau, est-ce que vous voulez les acheter ?» Écoutez, monsieur, je vous remercie beaucoup, mais étant donné que je n'ai pas les moyens de les acheter, je préfère vous dire non. Et il me dit « écoutez, c'est pas grave, je vous les emballe, vous les prenez et vous me payez tous les mois quelque chose. »
C'est intelligent, ça.
Et je lui dis, bon, mais écoutez, je quitte la France bientôt, je vais m'installer en Suisse. Mais c'est égal, ça me fait plaisir. Bon, et donc, on a fait le deal, j'ai remboursé l'antiquaire, il a été mon antiquaire exclusif pendant plus de 20 ans.
Ah oui,
donc,
ça s'appelle créer un client.
Il a créé le client, j'ai créé, je dirais, ce que j'appellerais dans une collection, ce qui est très important, le double regard.
Oui.
C'est-à-dire, c'est bien, surtout que l'archéologie est un domaine extrêmement pointu, difficile,
très vaste,
beaucoup de faux qui circulent sur le marché, et donc d'avoir la confiance d'un antiquaire qui en plus était un érudit, il avait fait l'école du Louvre, c'était un homme qui avait beaucoup de connaissances, qui écrivait, qui publiait. Et donc, il m'a accompagné pour faire cette collection au départ. Et ça m'a permis vraiment d'acquérir des choses importantes.
Je crois qu'aujourd'hui, vous avez la 5e ou 6e collection du monde. C'est ce qu'on dit.
Privé, probablement. Mais si on mettait les grands musées dans la balance, je crois que je rétrograde de plusieurs crans. Mais en collection privée, je pense que oui. C'est quand même 1200 objets qui ont été triés sur le volet, qui ont fait l'objet, d'ailleurs c'est très important d'en parler, qui ont fait l'objet d'une déontologie très poussée.
C'est-à-dire, il faut l'expliquer à nos auditeurs.
Par des avocats externes, parce qu'à l'époque, au moment où on parlait de collaboration entre le musée d'art et d'histoire et la fondation Grandeur pour l'art, la direction du musée voulait s'assurer que les objets avaient une provenance, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été volés dans des tombes de manière récente.
Illégale.
Et illégale. Donc,
pas de fouilles illégales.
Exactement. Et donc, à ce moment-là, nous avons choisi un groupe d'avocats indépendants, qui était payé par le musée, non pas par moi, pour analyser chaque objet, sa provenance, d'où il vient, à qui il appartenait auparavant, etc., etc. Et nous sommes passés à travers, à l'époque, il n'y avait peut-être pas encore déjà 1200 objets, mais nous sommes passés à travers un bon millier d'objets pour s'assurer qu'ils étaient présentables.
Ça, c'était un immense plus pour votre collection, parce que c'est un travail qui a été fait, un travail muséal qui a été fait sur votre collection.
Mais ça a pris 3 ans.
Ah oui, sûrement.
Trois ans de travail entre les conservateurs du musée d'art et d'histoire, en collaboration avec ces deux avocats qui ont certifié, si vous voulez, que le travail qui avait été fait prouvait que la collection avait une base solide, qu'on pouvait l'exposer.
Est-ce que vous continuez à collectionner d'antiquités ?
Alors, j'ai beaucoup diminué, énormément diminué. Il y a des sujets qu'on ne touche plus depuis 2015 à cause de l'invasion de l'Irak par Daesh. Et ensuite, c'est-à-dire que, comme vous savez, même déjà au moment de la première guerre de 2004, si je ne me trompe pas, beaucoup de problèmes se sont posés. D'antiquités qui ont quitté l'Irak et la Syrie de manière illicite.
Il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de problèmes au port franc à Genève.
Exactement. Mmh. Et donc, en tout cas, à partir de 2015, j'ai totalement arrêté d'acheter en vente aux enchères ou auprès de marchands d'objets qui pouvaient provenir de cette région. Sauf si on me prouvait par des photos, par des factures que ça avait...
Les collections étaient antérieures.
Étaient antérieures. Le seul objet, à ma connaissance, que, si je me souviens comme ça de tête, c'est un très très beau personnage cananéen qui a appartenu au Rothschild, à Guy de Rothschild, et j'ai même la photo dans un livre de Skira, c'est oui. Vous dire, de 1960. Donc c'est vous dire que là, voilà,
il n'y a ça pas... Établit,
voilà
ça
ce qu'on établit. Appelle la provenance, c'est la déontologie, ça. C'est exactement. De faire un travail en profondeur exactement. Sur la qualité de d'où vient l'objet.
Moi, je vais vous poser une question, parce que vous avez fait des choix musicaux. Alors, pourquoi Barbara Streisand, Woman in Love ?
Alors, pourquoi Woman in Love ? Parce que, comme je vous disais, c'est l'époque où j'étais marié, et je disais, pourquoi Woman in Love ? Il y a aussi Man in Love. Donc j'espère qu'un jour, quelqu'un, que ma femme soit amoureuse de moi, je suis très fier et très flatté, mais j'aimerais bien lui répondre la même chose de ma part.
Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau.
It's a lonely earth.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire-priseur avec le grand collectionneur Jean-Claude Gandure. Jean-Claude, on a vu maintenant que vous avez la passion de l'Antiquité, de l'art de l'Antiquité, mais vous avez aussi beaucoup d'autres passions. Alors chronologiquement, la seconde qui est arrivée dans votre vie, qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est la peinture. Incontestablement, c'est la peinture.
J'avais... Et là, le premier choc. Alors, c'est quoi le premier choc ? Je crois qu'il y a une histoire familiale, là. Un Marquet.
Alors, oui, effectivement, Marquet m'a marqué, c'est le cas de le dire, un jeu de mots un peu facile. Mais effectivement, chez mes grands-parents, il y avait passablement de tableaux de ce que l'on appelait à l'époque, ce qu'on appelle toujours d'ailleurs, la première école de Paris. Et donc c'était marqué Utrillo, Vlaminck, Derain, etc. Et donc j'étais un peu bercé par cette peinture, et je pensais qu'au fond, hors de cette peinture, il n'y avait pas d'espoir. Et heureusement que j'ai changé d'opinion, et finalement, c'est grâce à la gentillesse de mon père qu'un jour, il m'a emmené voir une exposition à Lausanne. C'était une biennale à l'époque qui avait lieu à Lausanne et qui exposait les nouveaux peintres, c'est-à-dire ces fameux peintres d'après-guerre comme Mathieu, Soulages, Vera da Silva et d'autres. Et je tombe vraiment en extase devant un tableau de Vera da Silva. Et je le regarde et je dis à mon père, pourquoi tu ne l'achètes pas ? Ou tu ne me l'achètes pas ? Tu ne me l'achètes pas ? Et il me regarde et il me dit, écoute, je souhaite que dans la vie, tu puisses t'offrir un jour un Vera da Silva. Et donc, si vous voulez, à la fois l'art et la leçon.
La leçon, oui.
L'art et la leçon. Et puis, il y a eu un second tableau, toujours dans cette exposition, d'un peintre qu'on connaît moins, qui s'appelle Bailly, qui est un peintre italien, plutôt réaliste, et qui fait des généraux. Et ce tableau m'avait frappé parce que le peintre avait accroché de vraies médailles sur la poitrine du peintre. Or, comme enfant, je me pavanais dans les corridors de l'appartement à Alexandrie en accrochant des décorations qui avaient appartenu à des oncles et des parents de ma famille, en disant « je suis l'amiral de la flotte suisse ». Et mon père écoutait ça avec beaucoup d'attention et me disait « mais est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de mer en Suisse ?» Je dis « oui, mais il y a des lacs ». et donc c'est devenu un peu la blague de l'amiral de la flotte suisse. Et donc j'ai développé cette partie de collection au cours du temps pour en faire ce que beaucoup de spécialistes aujourd'hui, dont des conservateurs de grands musées européens, considèrent comme une des meilleures qui existent parce qu'elle couvre vraiment toute une période, c'est-à-dire j'ai concentré le travail sur 30 ans. 42, 72. 30 ans de peinture.
42, 72.
30 ans de peinture, puisque ce sont des mouvements qui vont se succéder à un rythme très rapide.
Oui.
On va passer de l'abstraction pure, lyrique, à l'abstraction géométrique. On va passer au nouveau réaliste, on va passer à la figuration narrative. On
support
va passer
surface.
À support surface. Oui. Donc, ça vous couvre un spectre de peinture. Et puis, Paris, jusqu'en 63, c'est le centre du monde. Tous les artistes, même des États-Unis, viennent à Paris rencontrer leurs alter-ego pour travailler avec eux. Et donc, il y a un foisonnement, il y a une qualité, si vous voulez, de travail. Ouais. Et donc, je continue à m'efforcer à rassembler tous ces peintres dans une seule collection. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 tableaux.
Ah oui.
De tous les formats, c'était même des formats que je ne peux pas rentrer dans ma maison, parce que les plafonds ne sont pas assez hauts.
Alors, de quel peintre ? Parce que je connaissais que les Chinois pour faire ce genre de choses.
Saint Francis nous a fait des tableaux de 4 mètres sur 3 mètres et demi. J'ai 5 tableaux de Manessier qui font 4 mètres et demi de haut, qui sont une vraie merveille.
C'est frustrant de ne pas pouvoir vivre avec un tableau qu'on aime.
Alors, les Manessier, je les avais achetés dans un état d'esprit particulier. C'est-à-dire, c'est un ensemble extrêmement important de 1970. C'est-à-dire, c'est un peu tard pour Manessier, mais c'est les favelas. Il dessine, enfin, il peint les favelas brésiliennes avec une émotion extraordinaire, un jeu de couleurs très violente qui est prenante. Et j'imaginais que dans un musée, par exemple, de construire une sorte de fausse église, ou si vous voulez, un réceptacle dans lequel ces cinq tableaux pouvaient être présentés en quinconce, aurait donné quelque chose d'absolument extraordinaire. Et c'était dans cet esprit-là, au fond, que je les ai achetés. Ce n'était pas tellement pour mon usage personnel. Comme vous savez, probablement, la collection, je l'ai donnée, c'est fini.
On va en parler tout à l'heure de la Fondation. Mais là, pour le moment, je suis curieuse, et je pense les auditeurs avec moi, de savoir quelles sont les différentes spécialités dans lesquelles vous avez collectionné. Là, maintenant, donc l'Antiquité, les tableaux. Je me suis laissé dire que vous aviez beaucoup aussi la faïence d'Urbino.
Oui, absolument.
Alors, c'est arrivé comment, ça ?
Encore une fois, les deux premiers sujets, je dirais, sont extrêmement codifiés. Après, ce sont des coups de cœur. C'est vraiment le regard d'aller dans des foires, de voir un bel objet et de se dire, tiens, j'aimerais bien vivre avec. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y a une adéquation entre l'œil et l'envie, si vous voulez. Ce n'est pas tellement la notion de possession, puisque vous me dites qu'on va en parler tout à l'heure. Je me suis dépossédé de mes objets, donc je le fais vraiment dans un goût esthétique pur, uniquement. C'est ça qui m'intéresse, d'ailleurs. C'est de faire le travail d'un conservateur, de réinventer un métier, le collectionneur-conservateur, qui travaille, au fond, pour les autres après.
Oui, pour transmettre.
Pour transmettre. Mmh. Et donc, Urbino, oui. Par exemple, j'aime beaucoup tout ce qui est ces objets Hausbourg, vous savez, comme ces chopes en argent, ou les plaques religieuses du XVIe siècle, XVIIe. Donc, c'est très éclectique. La collection est extrêmement éclectique. Il y a beaucoup de statuaires religieux.
La statue religieuse du Moyen-Âge, voilà.
Du Moyen-Âge plutôt. Là, j'ai récemment acquis, c'est une petite histoire d'ailleurs amusante, parce que j'ai acquis un ange normand.
Un ange protecteur.
Je ne sais pas si... Enfin, j'espère qu'il est protecteur. Je l'achète en galerie et quelques jours plus tard, je reçois un mail du directeur conservateur des musées de Rouen. Et le titre de son mail, c'est « Et un ange passa ». Et donc, je lis le mail et il me dit « Bon, ça fait 2 ans que nous essayons d'acheter cet ange et on m'a dit que malheureusement, il n'était plus disponible puisque j'ai finalement pu savoir que c'était vous. Est-ce que vous nous le prêtez ?» Je dis « Oui, bien sûr, c'est la mission de la Fondation. Donc, je serai heureux qu'il figure dans le musée pendant quelques années. »
C'est joli, ça. C'est joli. Alors, on écoute encore un peu de musique ?
Alors, j'ai choisi Mozart, oui, Don Giovanni, parce que pour moi, Mozart, c'est quand même le maître des maîtres. Mon grand-père était un grand admirateur de Mozart. Il me faisait écouter ça sur des disques à moitié rayés, vous savez, avec
Il fallait tourner la manivelle
et le son sortait de la tête de la...
Oui. On mettait une aiguille, d'ailleurs, oui. On changeait l'aiguille.
Absolument, il y avait une boîte avec des aiguilles plus ou moins fines.
Les 33, oui, oh là là, mon Dieu, les 78.
C'était 78.
78,
c'était,
ouais.
Et donc, pour écouter Don Giovanni, il fallait pratiquement une dizaine de disques, ou quinzaine de disques. Ça grésillait, c'était épouvantable, et j'adorais ça.
Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2, dans l'œil du commissaire priseur, avec le grand collectionneur Jean-Claude Gandure, qui maintenant va nous parler de sa fondation, parce que c'est central, la fondation, Jean-Claude.
Oui, la fondation est la dépositaire aujourd'hui de toutes mes œuvres d'art, c'est-à-dire que leur avenir est assuré. Elles ne pourront plus être partagées, ne pourront plus être vendues. C'était pour moi quelque chose de très important. Une vie de collection, de la voir partir en morceaux. C'est d'ailleurs un débat, je dirais presque philosophique, que j'ai eu avec plusieurs historiens de l'art. En français, nous n'avons qu'un seul mot pour dire collection. Donc c'est très difficile d'exprimer ce qu'est une collection vivante, c'est-à-dire qui est restée intacte, ou en grande partie intacte, et une collection qui a été vendue. Peut-on utiliser le même mot? Est-ce que ça reste une collection? Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit ex-collection de X ou Y.
C'est ce qu'on met dans les catalogues.
C'est ce qu'on met dans les catalogues. Mais ça ne me satisfait pas. C'est-à-dire, pour moi, le mot collection devrait être réservé qu'à un ensemble mis bout à bout par un collectionneur ou par un couple de collectionneurs et qui reste intègre, c'est-à-dire dont la mission sera d'être partagée avec d'autres personnes dans un espace-temps différent.
Un œil, un fil rouge.
Exactement, exactement. Et donc, une fois que j'ai fait ça, donc c'est une fondation qui est enregistrée à Genève, qui s'appelle la Fondation Gandure pour l'art, qui a beaucoup de missions. Alors, une de ces missions essentielles, c'est de prêter un maximum d'œuvres à des musées, à des expositions en Europe, dans le monde. Nous avons fait, je pense que nous prêtons environ entre 60 et 80 tableaux et objets par année, sans parler des grandes expositions que nous faisons nous-mêmes. Par exemple des expositions d'archéologie que nous avons faites au Japon, dans 4 musées japonais, que nous avons faites aux États-Unis. Celles-ci, je ne les compte même pas dans les 80, c'est-à-dire quelquefois nous avons jusqu'à 200 objets et tableaux qui sont prêtés.
J'ai une question immédiate. Vous employez combien de personnes pour gérer tout ça?
12.
12.
Y compris moi, c'est-à-dire nous sommes 12 à travailler d'arrache-pied, dont ma belle-fille, qui au fond est un petit peu la chef d'orchestre, je dirais, de la gestion de tous les jours. Et c'est magnifique comme travail, c'est-à-dire qu'en 10 ans, nous avons fait une place, si vous voulez, nous avons essayé de présenter quelque chose de nouveau, de montrer qu'on peut être aussi généreux avec ce que l'on possède, et non pas de le garder caché aux yeux de tout le monde. Ça, c'est une des missions. La deuxième, c'est le partage, si vous voulez, avec surtout les jeunes, les enfants et les adolescents. C'est essentiel de les initier à l'art, de les initier à la beauté, et c'est apaisant. Et de comprendre qu'est-ce que ça représente, quelles sont les civilisations qui existent ailleurs qu'en Europe, et sans vouloir faire du prosélytisme quelconque, ce que l'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble, si vous voulez, d'une manière générale, c'est-à-dire, si tu connais mieux la civilisation des autres, peut-être tu l'accepteras plus facilement que si tu en es dans l'ignorance absolue. Donc, j'invite chaque année des classes de mon ancien collège à Châteaudet qui viennent visiter mon petit musée privé à Carouge, et c'est moi-même qui fais les visites avec eux, c'est-à-dire ce que j'essaie de les intéresser et de transmettre ce que j'aime et pourquoi je l'aime et qu'est-ce que ça représente, et je pense que c'est bien, voilà, ça fait partie.
Ça rend très heureux.
Moi, ça me rend heureux, en tout cas, ça me rend heureux. C'est une belle journée que je passe avec ces gosses. On bavarde, ensuite on déjeune ensemble. Ils peuvent me poser toutes les questions qu'ils veulent. Alors, au début, ils sont un peu timides. Mais comme je les prends quelquefois pendant 3 ans, dans des voyages différents, puisque je profite, par exemple, que je fais une exposition à Madrid ou une exposition à Caen ou ailleurs, j'invite la classe et donc nous allons passer un week-end. ça va me permettre de les connaître beaucoup mieux, de discuter avec eux.
Ils ont quel âge, ces enfants ?
Alors, ceux qui viennent à Carouge, généralement, ce sont les plus jeunes. Ce sont ceux qui font à l'école Rome et Grèce, puisque la collection, c'est le bassin méditerranéen, et l'Égypte, évidemment, qui a une place très importante dans la collection. Et puis, ceux que j'emmène avec leurs professeurs à l'extérieur, ce sont plutôt des jeunes entre 15 et 16 ans. C'est-à-dire juste avant l'entrée, pour les jeunes voix, le collège. Chez nous, le collège, c'est avant, sinon après, c'est le gymnase.
Voilà.
Donc, nos particularismes cantonaux existent. Et ça, c'est aussi une deuxième mission. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont plus du mécénat, c'est des bourses. Nous donnons environ 5 à 6 bourses par année.
Alors, quel est le profil des boursiers ?
Alors, il y en a plusieurs, c'est-à-dire c'est soit un master, soit un doctorat, soit un travail dans une haute école. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'être nécessairement universitaire. Et il n'y a pas besoin qu'elle soit nécessairement associée aux collections de la Fondation. Mais il faut que le sujet soit un sujet historique ou un sujet culturel d'intérêt public, je dirais. Et travaillons beaucoup avec l'université.
Ce sont des gens qui font des thèses, en fait.
Thèses.
Recherche.
Ou catalogue.
Fouille aussi.
Fouille. Alors ça, c'est une autre mission. Ça, laissons les fouilles de côté pour le moment, parce que d'abord, vous avez vraiment les bourses. Ensuite, vous avez la conservation du patrimoine mondial. C'est-à-dire que la Fondation finance, par exemple, depuis maintenant plusieurs années, des fouilles franco-suisses à Saqqara, sous l'égide du professeur Colombert, de l'Université de Genève, et c'est extraordinaire ce qu'il fait comme travail, avec vraiment des moyens très limités. Il arrive à avancer de manière très linéaire sur toute l'histoire de l'Égypte ancienne, de Pépi Ier et Pépi II. Ensuite, nous avons une autre mission qui est, comme je vous disais, cette protection du patrimoine, c'est-à-dire lorsque un musée s'adresse à nous et nous dit, voilà, j'ai un monument ou j'ai une statue ou quelque chose qui est très important, mais nous n'avons pas le budget pour le restaurer. À ce moment-là, nous aidons à la restauration pour s'assurer que cet objet ne disparaisse pas ou ne reste pas enfermé dans des caisses pour permettre justement de nouveau la vision, cette transmission que nous estimons extrêmement importante. Donc vous voyez, ce sont des missions différentes et c'est beaucoup de travail.
Jean-Claude, ça nous emmène quand même loin de la musique que vous avez choisie, Les Portes du Pénitencier de Johnny Hallyday. Quel est le lien ?
Alors, les portes, il n'y a pas de lien du tout, ni avec...
C'est pas un pénitencier, là, hein,
ça n'a pas du tout de lien avec la Fondation. C'est plutôt, j'ai choisi ça parce que c'est un souvenir, vous savez, j'aime bien faire référence à des souvenirs d'enfance ou de jeunesse. Mes parents m'avaient offert un des premiers petits transistors qui existaient dans les tout début des années 60. Et nous n'avions pas le droit, au collège, j'étais pensionnaire, nous n'avions pas le droit d'écouter la musique le soir. Et donc je cachais mon petit transistor sous mon coussin, je mettais une oreillette, et c'était, il y avait Europe numéro 1. Et c'était la fameuse émission Salut les copains.
Salut les copains.
Et donc, souvent, le soir, passaient les portes du pénitencier. Et comme vous êtes pensionnaire, pour vous, le pensionnat, c'est un petit peu la pénitence, c'est la punition d'être là. Et j'écoutais ça avec passion, et ça m'amusait beaucoup. Et donc, j'ai voulu rappeler ce petit souvenir.
Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau.
Bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres gars l'ont fini. donner sa robe de mariée. Peux-tu jamais me pardonner? Je t'ai trop fait pleurer. Demain, tu peux
sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire priseur avec le grand collectionneur Jean-Claude Gandur qui nous a expliqué sa fondation, qui nous a expliqué ses collections. Jean-Claude, j'ai une question. Vous avez dit dans une interview, j'aime passer d'un sujet à l'autre. J'aime passer d'un sujet à l'autre. Donc en fait, c'est pour ça que vous avez multiplié les collections. Puisqu'il y en a une dont on n'a pas parlé, c'est l'art océanien.
Exact.
L'ethnographie.
Qui n'est même pas, qui sont même pas les dernières. C'est-à-dire qu'après avoir collectionné les trois sujets dont on a parlé, effectivement, je me suis intéressé d'abord à ce qu'on appelle le précolombien. Alors là, il y a aussi, c'est parce qu'on ne fait pas les choses par hasard, il y a toujours un déclencheur, je dirais, qui permet de trouver le lien pour lequel on a envie de s'investir dans quelque chose. Et ma belle-fille est d'origine sud-américaine. Et donc, elle a trois enfants. Je me suis dit, ça serait intéressant que les enfants connaissent un petit peu l'art qui s'est développé, pas nécessairement dans leur pays, parce que l'Uruguay n'est pas un pays de pré-colombien. Il n'y a pas d'objets ou de tribus là-bas. En revanche, tout le Mexique, tout le centre, mais malgré tout, ça reste l'Amérique latine, ça reste l'Amérique centrale. C'est proche d'un lieu où leur mère a grandi, où c'est plutôt ses grands-parents les autres grands-parents ont grandi. Et j'ai acheté 3-4 objets que j'ai mis à la maison pour les initier. En me disant, on verra bien ce que ça donne. Alors là, je dois vous raconter absolument une anecdote parce qu'elle est assez mignonne. Lorsque ma petite fille a eu l'âge de 9 ans, de la même manière que je le faisais que ma grand-mère l'a fait avec moi, j'ai offert un objet à la sœur aînée pour ses 9 ou 10 ans. Et le petit, qui avait 3-4 ans, tourne autour d'elle et regarde l'objet et dit « C'est quoi ?» Et puis sa sœur lui dit « C'est Tito qui me l'a offert. » Puis il dit à ce moment-là « Mais je ne comprends pas. » Parce qu'il n'a pas le petit bébé dans le dos comme celui qui est au salon. Et c'était, si vous voulez, pour moi une révélation. Une révélation, c'est-à-dire je me suis dit « J'ai eu raison. C'est-à-dire que finalement, un enfant ne va pas nécessairement parler de ce qu'il voit, mais il va en rester quelque chose.
Certainement.
Et donc, ça va lui ouvrir les yeux dans le futur, quand il ira dans un musée, il se souviendra qu'il a vu ça quand il était petit, etc. Et ça m'a rassuré de la justesse, si vous voulez, du choix, non pas du précolombien, mais du choix, je dirais, philosophique, de comment initier des jeunes à l'art et à la culture, c'est-à-dire de les mettre en contact avec ça. Et donc, après, j'ai fait l'océanien, parce que je trouvais que l'océanien était un art très intéressant, un peu plus brut, un petit peu plus fort. Et le seul art ethnographique que je ne collectionne pas, c'est l'art africain. Et là, il y a vraiment une raison, c'est que c'était le
continent.
Vous
avez travaillé pourtant au Nigeria.
Oui, ou pas seulement, dans tous les pays africains. Et donc, c'est à cause de ça. C'est-à-dire que j'ai eu une sorte de sentiment que ça ne serait pas très bon, ou très bien, qu'ayant été toute ma vie un professionnel en Afrique, qu'un jour on me soupçonne d'avoir utilisé des canaux quelconques pour exporter des objets africains d'Afrique. Donc je me suis toujours abstenu, ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas.
Parce qu'il y a de très belles choses.
Il y a des choses mais extraordinaires. Vous en savez quelque chose, Viviane. Oui. Donc je ne vais pas vous raconter...
Moi, j'ai vendu une très grande partie de ma collection.
Je sais, puisque
j'ai gardé quelques objets.
J'ai regardé avec attention ce que vous aviez vendu à l'époque. Mais ce que j'ai ajouté comme nouvelle collection, en revanche, c'est l'art contemporain africain.
Alors ça, c'est un art très important.
Oui.
C'est là, je vous rejoins totalement.
Contemporain africain. Je pense qu'il y a un avenir énorme.
Je l'aime mieux que l'art contemporain européen ou américain.
Actuel. Nous sommes tout à fait d'accord. Notre art européen aujourd'hui est très aseptisé, très peu politique.
Convenu.
Et convenu, il faut vendre. Alors que, je dirais que les artistes africains découvrent un média... non, ce n'est pas une radio, ce n'est pas une télévision, c'est quelque chose qui va rester et qui est à la fois ludique, qui est parlante, qui est politique, et qui est même quelquefois une moquerie de leurs habitudes.
Et donc, une distance, oui.
C'est absolument extraordinaire. Oui. Et puis, il y a quand même, on retrouve toujours quand même le traumatisme de la colonie, le traumatisme aujourd'hui de l'immigration. C'est interprété de manière très différente en fonction des pays, si ce sont des pays d'émigration ou pas. Ils n'ont pas la même approche. Mais vous voyez, par exemple, j'ai acheté récemment un tableau d'un artiste, je crois, ougandais, qui a tout de suite pris le sujet de la Covid pour l'exprimer en peinture. Et ça donne des choses absolument extraordinaires. Je n'ai pas encore vu d'artiste européen s'emparer du sujet et au fond d'un moment de l'histoire qui est quand même difficile.
Oui, très.
Donc c'est cette spontanéité artistique qui m'a touché. Les couleurs, la dynamique et l'esthétisme général, global.
Mais Jean-Claude, il y a une chose, c'est que ce sont des gens qui peignent avec leurs tripes.
Absolument.
Alors, tripes, j'ai pas dit un trip, hein, j'ai dit
oui,
les tripes.
Avec leurs tripes, absolument.
Alors que l'art conceptuel, que personnellement je n'aime pas du tout, parce que quand il faut qu'un galeriste m'explique pendant un quart d'heure pourquoi je dois m'émouvoir, je suis loin de l'émotion.
Ben oui, ben c'est voilà, moi j'ai découvert l'art africain et je suis ravi d'avoir commencé cette collection. Et bonheur, il y a une grande ville française qui m'a demandé si on ferait une exposition.
Très bien, bravo.
Voilà, donc c'est alors que j'ai commencé il y a 5 ans, j'ai réussi, chaque fois que je vais voir le maire d'une ville, que ce soit en Suisse, que ce soit à l'étranger. D'ailleurs, nous espérons faire la même chose. Nous sommes en discussion avec une ville dans le canton de Vaud, qui n'est pas Lausanne, mais avec une ville importante du canton de Vaud, où nous ferons probablement aussi une exposition. Et le canton de Châtel aussi nous a demandé une exposition.
D'art africain contemporain.
Oui, absolument.
Très bien.
Et donc, ça montre que tout d'un coup, il y a un intérêt véritable. Les historiens de l'art, les conservateurs de musées veulent s'emparer du sujet et ne pas le laisser passer. Et
c'est ça,
je trouve ça vraiment très très bien.
Moi aussi. On arrive malheureusement, mon cher Jean-Claude, au terme de cette émission beaucoup trop courte avec vous, parce qu'on aurait encore tellement de questions à vous poser. Mais vous allez revenir, vous allez revenir.
Ça sera un grand plaisir.
Je voudrais en dernier dire que vous êtes un homme aux yeux brillants. Vous avez des passions, vous savez les faire partager. Vous êtes vraiment une belle personne.
Merci.
Je suis très heureuse de vous avoir interviewé aujourd'hui, de ne pas être restée justement sur ce qui avait pu à l'époque être un peu négatif. Aujourd'hui, c'est plein de positifs. Merci pour ça et merci de l'avoir partagé avec nos auditeurs.
Merci à vous, Viviane. Merci beaucoup.
Et puis, on va écouter votre dernier choix. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, mon dernier choix, c'est un trio de Beethoven. Je n'ai pas, malheureusement, tous les numéros des trios de Beethoven. Ça me donne la chair de poule. C'est-à-dire, lorsque j'écoute, si j'ai un moment de blues ou un petit peu comme ça, qu'est-ce que je fais cet après-midi, je vais mettre un trio de Beethoven.
Alors on va l'écouter avec vous.
C'est tellement envoûtant, ça vous transporte.
On va être transporté avec vous et puis on va remercier Olivier Steinmetz qui nous a enregistré et qui monte cette émission.
Merci beaucoup à vous deux. Et
à bientôt,
bientôt.
Jean-Claude, à bientôt. On écoute le trio de Beethoven.